Israël intensifie l'aide humanitaire et nie qu'il y ait une famine à Gaza. En outre, elle accuse l'ONU de mensonge. On en parle ce matin avec Alain De Staeckx. Il est au micro de Lise Benkemoun.
Alain De Staeckx, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes sénateur honoraire en Belgique et ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Je voulais qu'on revienne ensemble sur toute la polémique de ce week-end sur l'aide humanitaire à Gaza, la reprise annoncée par Tsahal et tout ce qui s'est dit ce week-end. Alors, on en est où à votre avis sur cette aide humanitaire? Elle rentre ou elle ne rentre pas?
Ben, bon, c'est difficile à savoir parce que les informations sont très contradictoires. Donc, avant de savoir si elle rentre ou si elle ne rentre pas, il faut d'abord savoir quelle est la situation exacte à Gaza. Et moi, j'entends parler de famine, de malnutrition, mais j'ai bien regardé aujourd'hui et je ne vois pas de chiffres précis qui permettraient de quantifier ou de qualifier exactement ce problème. Plusieurs éléments. La première chose, c'est que les personnes qui sont susceptibles de décrire la situation à Gaza ne sont pas objectives, puisqu'on sait depuis le début que l'UNRWA et les ONG ont pris parti dans ce conflit, ont pris parti pour le Hamas de facto. On sait aussi qu'il y a très peu, voire quasiment pas de personnel expatrié étranger dans l'enclave de Gaza. Donc les informations reposent sur du personnel palestinien qui est en grande partie favorable au Hamas. J'ai cherché à voir s'il y avait des chiffres. Bon, faire une enquête nutritionnelle, même en situation de guerre, ce n'est pas si compliqué, hein. On prend un échantillon d'enfants, 100, 200 maximum, on mesure leur poids, leur taille, et on fait un ratio en fonction du poids, de la taille et de leur âge. Donc, moi je veux bien, hein, mais il y a un narratif qui est en train de se développer autour de la malnutrition et de la famine, et ce narratif, il n'est pas alimenté par des chiffres précis. Et donc, je crains que, depuis le début de ce conflit, on est dans une manipulation du Hamas. Je n'en suis pas certain, mais à défaut de chiffres, c'est mon hypothèse. Est-ce que l'aide rentre? Oui, elle rentre. Elle rentre puisqu'il y a un certain nombre d'aides qui est stockée dans les locaux de l'UNRWA. À ma connaissance, la Gaza Humanitarian Foundation n'a jamais cessé des opérations. Il y a eu des largages, même si c'est plus symbolique qu'autre chose. L'Égypte a envoyé des camions. Donc l'aide rentre. Après, évidemment, est-ce qu'elle arrive aux personnes qui en ont besoin ou est-ce qu'elle arrive au Hamas et uniquement à certaines personnes? Ben, la vérité, qu'on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que l'aide humanitaire est devenue pour le Hamas l'enjeu de la guerre, si vous voulez. Et je suis absolument convaincu que les premiers servis sont les combattants du Hamas et leurs familles.
Oui, on dit même que celui qui contrôle en fait l'aide humanitaire contrôle de facto ce qui se passe pour la population de Gaza. Oui, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, et c'est toujours comme ça dans les situations de guerre. Si vous voulez, celui qui contrôle l'alimentation contrôle la population et donc contrôle la marche de la guerre. On peut même faire l'hypothèse que sans la possibilité de contrôler une partie de l'aide humanitaire, le Hamas serait déjà défait et aurait rendu les armes. Donc, s'ils se maintiennent, ce n'est pas uniquement par leur capacité combattante, c'est d'abord parce qu'ils sont émergés au milieu des civils et qu'ils utilisent évidemment les civils comme des boucliers, mais c'est aussi parce qu'eux-mêmes ne souffrent pas eux-mêmes et probablement leur famille ne souffrent pas d'un manque d'aliments et de malnutrition. Donc, en fait, comme depuis le début, si vous voulez, comme depuis, alors pas le 7 octobre, mais depuis le 8 octobre, le lendemain du massacre, on est dans une campagne de désinformation absolument totale. La seule source, c'est ce fameux ministère de la Santé du Hamas que les journaux continuent à appeler ministère de la Santé du Hamas. Bon, parfois, ils disent que ce sont des chiffres non corroborés, mais en attendant, l'ONU, les ONG, tout le monde utilise ces chiffres dont on ne sait rien de la crédibilité et de la fiabilité. Donc, je crois qu'il y a peut-être peut-être un problème humanitaire majeur, il y a peut-être de la malnutrition, mais il y a surtout un récit médiatique dominant qui en permanence accuse Israël. Et j'ajouterais que depuis le début, on n'entend aucune pression sur le Hamas. C'est-à-dire que parfois, on entend un vague rhétorique, et il faudrait libérer les otages, mais la pression sur le Hamas, où est-elle? Où est la pression sur le Qatar pour que le Qatar fasse pression sur le Hamas? Où sont les déclarations de la France, du gouvernement belge qui disent c'est d'abord le problème du Hamas avant le problème d'Israël? Donc, si vous voulez, il y a depuis le début un parti pris absolument insupportable dans ce conflit. Et il ne s'agit pas de minimiser peut-être ce qui se passe sur le terrain, il s'agit de constater que la pression est uniquement sur Israël, alors que jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas Israël qui contrôle la population, c'est le Hamas.
Alors, concernant la famine, une fois de plus, l'armée israélienne aujourd'hui a montré un certain nombre de choses pour dire qu'il n'y avait pas de famine à Gaza, mais surtout, ils ont montré des photos de tous les camions de l'ONU et Benjamin Netanyahou s'en est pris directement à l'ONU qui ne distribue pas son aide humanitaire. Est-ce que c'est habituel, ça, c'est crédible de la part de l'ONU de dire non, nous, on attend que ça soit selon nos conditions?
Vous savez, c'est la même problématique là aussi depuis le début. À partir du moment où l'UNRWA est une organisation partisane qui a finalement peut-être un intérêt quelque part à diaboliser et à critiquer Israël, c'est très difficile de savoir à quel jeu il joue. Moi, je m'étais choqué de voir les réactions des ONG et de l'ONU lorsque la Gaza Humanitarian Foundation a été mise en place. Alors oui, ce n'était pas facile. Et oui, sans doute qu'il y a eu de multiples incidents, mais sans doute pas au point qu'on le décrit. Enfin, j'ai encore lu un article aujourd'hui qui disait que aller chercher de l'aide, c'était jouer à pile ou face, quasiment à égalité, la mort ou recevoir des aliments. Tout ça me paraît très exagéré. Mais dès le début, les ONG et l'UNRWA n'ont pas voulu coopérer avec la Gaza Humanitarian Foundation pour préserver leur soi-disant sacro-saint principe d'impartialité, de neutralité et d'humanité. Mais le problème, c'est que depuis le début, ils n'ont pas montré qu'ils étaient neutres et impartiaux. D'ailleurs, chercher une déclaration de l'UNRWA ou de MSF ou d'autres qui critiquent le Hamas, je crois qu'il n'y en a pas. Or, ils savent quand même bien que c'est le Hamas qui contrôle la population, qui détourne l'aide, qui la manipule. Donc, ce silence assourdissant, si vous voulez, par rapport au Hamas est profondément incongru et interroge vraiment sur l'objectivité de ces ONG et de l'UNRWA et de l'ONU en général.
Ma dernière question, ce ne sera pas sur l'aide humanitaire, c'est sur les otages, Alain Destex. Est-ce que des organisations comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières, pour lesquelles vous avez travaillé, auraient pu, depuis 2 ans, demander à voir les otages, essayer de négocier pour que ce soit le cas, pour voir dans quel état ils sont?
Alors, celle qui aurait certainement dû le faire et qui, à mon avis, l'a fait, c'est la Croix-Rouge internationale. C'est typiquement son rôle et son mandat. Alors, je sais qu'elle a une tradition de silence et de ne pas faire, en général, de position publique. Sauf qu'une fois de plus, dans cette crise, elle a rompu avec ses propres règles, puisqu'à plusieurs reprises, la présidente ou la directrice générale, je ne sais plus son titre, a critiqué Israël. Et donc, la situation des otages, je vous ai dit l'autre jour, un otage a eu le scorbut. Le scorbut est une maladie qui a complètement disparu, qu'on qu'on étudie dans les livres de médecine. C'est une avitaminose C, c'est un déficit en vitamine C. C'est une maladie qu'on a découverte lors des grandes explorations au XVIe siècle sur les marins qui étaient privés de fruits et de légumes en quantité minimale. Et bien, on pourra un jour dire que le scorbut qui a disparu sur la planète depuis des siècles a réapparu dans les tunnels de Gaza. Bon, je ne vois pas non plus beaucoup d'articles disant comment est-il possible d'attraper le scorbut en 2025 en restant pendant des mois et plus d'un an dans un tunnel. Donc la conclusion de tout ça, si vous voulez, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, il y a une bataille de récits, et malheureusement, dans la bataille de récits, le récit d'Israël n'a pas la même résonance que le discours de toutes ces ONG, de ces militants islamo-gauchistes ou autres. Si je peux ajouter deux choses. La première, évidemment, la reconnaissance par Emmanuel Macron de la Palestine est une absurdité. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de population contrôlée. Ben, on a l'impression qu'il le fait pour des raisons strictement de politique intérieure, à la fois pour faire plaisir à une partie de l'électorat français, mais aussi parce que comme il est minoritaire aujourd'hui, il n'a plus de gouvernement légitime, enfin il ne contrôle plus le gouvernement actuel en France, mais je crois qu'il cherche par tous les moyens à exister sur la scène diplomatique et il papillonne Ukraine, États-Unis. Bon, maintenant il a jeté son dévolu sur Israël, mais franchement, c'est une mesure totalement contre-productive. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que bon, je comprends qu'Israël souhaite que la population de Gaza quitte Gaza, mais moi, en tant que Belge, je ne souhaite pas qu'ils viennent en Belgique et en Europe. Or là, on a des décisions tout à fait condamnables qui ont été prises, par exemple en France. Être originaire de Gaza vous donne automatiquement le statut de réfugié. Et en Belgique, la Belgique, quand même un petit pays à l'échelle de l'Europe, a accueilli la moitié des demandeurs d'asile palestiniens l'année dernière. On va pas me faire croire que parmi ces gens, il n'y a pas des islamistes radicaux, il n'y a pas des futurs terroristes. Donc on joue littéralement avec le feu. Et pendant ce temps-là, constatons qu'aucun pays arabe autour d'Israël et de Gaza ne veut accueillir le moindre réfugié gazaoui. Donc arrêtons d'être naïfs aussi en Europe. Si les pays arabes ne prennent pas les habitants de Gaza, pourquoi nous devrions-nous les prendre? D'autant plus que ils ont déjà un statut spécial à travers l'UNRWA, puisque l'UNRWA est une agence qui a été créée précisément pour les réfugiés palestiniens. Et je me souviens très bien dans une interview que j'avais faite avec lui, le professeur Marc Bosseuil, qui a été le premier, ça s'appelle pas au commissaire, mais commissaire aux réfugiés en Belgique, et qui a été président de la Cour constitutionnelle, disait clairement que ce n'est pas au pays d'accueillir des Palestiniens, au pays européen d'accueillir des Palestiniens, c'est à l'UNRWA de gérer le problème. Voilà, donc tout ça malheureusement est très pessimiste et au fond, si vous me permettez cette conclusion, si la guerre n'est pas terminée, c'est précisément parce que Israël respecte les civils, ne commet pas de génocide, ne commet pas de massacre de masse des hommes, des femmes et des enfants, cible les combattants, mais évidemment essaye que l'aide humanitaire ne soit pas instrumentalisée en faveur du Hamas. Et tout le monde peut comprendre que si Israël voulait terminer cette guerre comme on a terminé la Seconde Guerre mondiale, ce serait terminé depuis longtemps. C'est précisément parce qu'Israël est une démocratie et ne mène pas une guerre sans limite, une guerre totale contre le Hamas que le conflit dure depuis si longtemps. Et une des conséquences du fait que le conflit dure depuis si longtemps, c'est malheureusement que les opinions, une grande partie des opinions publiques occidentales, sont devenues pro-Hamas et anti-israéliennes. Donc on est devant un paradoxe, si vous voulez. Israël mène une guerre avec des limites, dans le cadre du droit international, en ne commettant pas de génocide, en ne bombardant pas systématiquement les populations civiles. Mais d'un autre côté, ces limites que Israël se fixe se retourne contre Israël, dont l'image devient de plus en plus négative auprès d'une partie de la population. Et ça pose un dilemme de morale et de conscience très grand à l'État israélien.
Alain Destex, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes sénateur honoraire en Belgique et ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Bonne journée à vous, à très bientôt.